Des mythes alimentaires viraux passés au crible. Vous nous en parlez en détail, Isabelle.
Oui, alors c'est cet article de Sarah Boumeda, journaliste, et Catherine Bombardier, développeuse, probablement parce que c'est un article interactif. Et donc, c'est paru dans Le Devoir le 25 août dernier. Et on a parlé avec deux nutritionnistes. Peut-être que vous connaissez le nutritionniste urbain, Bernard Lavallée.
Oui.
On a parlé aussi avec Benoît Boulanger, qui est nutritionniste et qui est aussi candidat au doctorat en nutrition. Donc, on commence par parler des fameuses cures de détox. En fait, le but là, de l'article, c'est un peu de contrer la désinformation alimentaire qu'on peut trouver un peu partout sur le web, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, les fameuses cures de détox. Donc, un jus qui est censé nettoyer notre système digestif, une détox à l'eau citronnée et au cayenne qui promet de nous libérer des toxines qui sont enfouies dans notre corps. Donc, est-ce qu'on a des solutions vraiment, ça existe, ces solutions miracles? Évidemment, vous vous en doutez un peu, Benoît Boulanger, le nutritionniste, dit pas du tout, ça n'existe pas. Il nous rappelle que le corps a déjà sa propre machine auto-nettoyante, hein, le foie. On pense peut-être pouvoir influencer son travail en lui donnant une pause, mais là, il donne il partage avec nous une image assez intéressante. Pour moi, c'est un peu comme se dire qu'en retenant son souffle, une heure par jour, on donnerait une pause à nos poumons.
Donc, ça veut tout dire.
Que ça ne soit pas très efficace. Et Bernard Lavallée renchérit, si on pense que notre foie ne travaille pas correctement, c'est à l'hôpital qu'il faut se rendre.
Ouais.
Ce n'est pas une bouteille de jus à 10 $ qui va nous permettre de remplacer un foie défectueux. Et donc, il n'y a pas de façon de se détoxifier le corps, que ce soit par l'alimentation ou par d'autres moyens. Mais pourquoi alors est-ce qu'on est constamment à la recherche d'un remède miracle pour nous sentir mieux? Mais on veut simplement une solution à ce mal-être qui nous habite. Quand on a l'impression d'avoir fait de mauvais choix, d'avoir développé des mauvaises habitudes alimentaires pendant une certaine période, il y a aussi apparemment, selon Bernard Lavallée, une part de spiritualité. La détox, le jeûne, ce sont des concepts millénaires. Il y a plusieurs religions qui comptent des jeûnes. On faisait, nous autres, on avait le vendredi maigre. Ben, je dis nous autres, là, mais les catholiques, historiquement.
On faisait maigre et jeûne.
Historiquement catholique. C'est ça, maigre et jeûne. Il y a le jeûne, évidemment, dans les religions comme l'islam et le judaïsme. Bref, il y a manifestement quelque chose dans notre pensée humaine qui nous donne un penchant vers ce genre de comportement-là. Mais évidemment, c'est très difficile de suivre de telles restrictions à long terme et ça peut engendrer aussi un trouble du comportement alimentaire si on répète constamment ces fameuses détox. On n'est pas fait pour suivre des règles restrictives sur une longue période. Et puis, ça peut avoir un impact sur plein de choses sur notre santé. On nous parle ici aussi des diètes qui excluent un aliment ou un nutriment, comme la diète cétogène, la diète cétogène qui proscrit les glucides. Ça, c'est toujours très visible sur les réseaux sociaux. Mais aussi, celle qui priorise un aliment, comme la diète carnée. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Donc,
non.
Il y a certains créateurs de contenu qui ont des dizaines ou même des centaines de milliers d'abonnés là, au Québec, aux États-Unis et ailleurs. Donc, eux, ils s'appuient sur une thèse voulant qu'un animal qui a une alimentation variée fournit une viande riche en vitamines et nutriments, donc on n'aurait pas besoin d'autre chose que la viande.
Mm-hmm.
Évidemment, encore une fois, on se doute qu'il y a plusieurs angles morts. Évidemment, c'est faux de penser que ça contient tout ce dont on a besoin. Évidemment, on peut penser tout de suite aux carences en glucides ou en fibres, entre autres. Et d'ailleurs, M. Bélanger souligne que les plus fervents amateurs de cette diète-là vont commencer à la délaisser parce que éventuellement, ils se rendent compte eux aussi qu'il faut manger des fruits et légumes. La Société canadienne du cancer recommande une réduction de la consommation de viande rouge. On sait aussi qu'une consommation accrue de viande rouge peut augmenter les risques de maladies du cœur parce que ça peut causer un haut taux de cholestérol dans le sang. Bref, il y a plusieurs raisons pour ne pas manger exclusivement de la viande. Et donc, d'une part, ça peut faire qu'on a des carences, il nous manque des choses, mais ça peut aussi causer des risques inutiles.
Alors, cette diète carnée, c'est en fait une fake news.
Voilà, exactement. Et on voit, il y a un petit graphique qui accompagne l'article dans le Devoir là, qui montre l'augmentation là, des recherches sur la diète carnée. Il y a vraiment eu un pic en 2025, puis là, on voit que ça a recommencé à descendre en 2026, mais c'est encore très, très haut, la popularité. Là. Ça semble avoir commencé à augmenter à partir de 2022, là, la popularité de cette diète-là spécifiquement. Ensuite, on nous parle justement de la diète cétogène, qui serait un peu la mère de ce genre de tendance-là. Évidemment, elle a une base scientifique. Pour ceux qui connaissent la diète cétogène, ça avait été développé pour réduire les crises d'enfants épileptiques et ça a vraiment un impact. Ça vise à engendrer dans le corps ce qu'on appelle le phénomène de la cétose. Et ça survient quand notre corps a été privé de glucides et se tourne vers les matières grasses pour tirer son énergie. Mais une diète cétogène conduite en dehors de contextes médicaux où on aurait un suivi par un professionnel de la santé, ça peut évidemment s'avérer dangereux. Comme Benoît Boulanger le souligne, notre cerveau a besoin de glucides pour fonctionner et les premiers temps vont être très difficiles si on ne réussit pas à maintenir la fameuse cétose. Il peut y avoir des effets secondaires qui vont être difficiles à vivre. Et pour Bernard Lavallée, le type de diète importe peu, c'est surtout les raisons qui poussent les gens à les suivre. C'est à ces raisons-là qu'il faudrait s'attarder. Il dit n'importe quel type de diète qui est à la mode est le reflet de préoccupations importantes dans une société. Et selon nos deux experts, les préoccupations se déclinent en deux axes principaux aujourd'hui. Donc, la quête continuelle de la santé, d'une part, et l'apparence physique, surtout symbolisée par la minceur et la beauté, d'autre part. Et d'une façon générale, les aliments vont être promus parce que ça va nous donner une belle peau, parce qu'on n'aura plus de boutons, parce qu'on va rajeunir, ou parce que ça va nous faire perdre du poids. Évidemment, on s'entend pour dire que notre société est encore grossophobe, et on a peur du rejet social sur la base de l'apparence. Ça nous motive beaucoup à changer notre alimentation par tous les moyens possibles pour atteindre un poids idéal. On est prêt à croire un peu n'importe quoi pour y arriver.
Quitte à se rendre malade.
C'est ça, Bernard Lavallée dit, les discours nuancés sont plates. On n'a pas le goût d'y croire parce qu'ils promettent rien. Mais ouais. Quand quelqu'un est capable de nous promettre quelque chose, alors on va vouloir le tester. Ensuite, on nous parle des fameux suppléments de vitamines, les shakes protéinés. Apparemment, il y a même des créateurs de contenu qui vendent leurs propres formulations à base d'électrolytes, des poudres miracles. Est-ce que ça a vraiment, c'est vraiment nécessaire dans notre alimentation d'ajouter des vitamines? Et encore une fois, on nous dit, absolument pas. Mais Benoît Boulanger tient à faire la différence entre les suppléments alimentaires pour sportifs et ceux qui visent simplement à optimiser, entre guillemets, la santé. Il dit qu'il y a certains nutriments qui peuvent effectivement aider à la performance sportive. Évidemment, là, on parle de sportifs de haut niveau, là, on ne parle pas d'aller
marcher contre une heure. Les athlètes,
oui. Oui, c'est ça. Mais intégrer ces ajouts-là dans notre alimentation quotidienne, ça peut parfois créer des problèmes plutôt qu'en régler. Si vous êtes capable de manger suffisamment dans une journée et de manger diversifié, évidemment, les suppléments ne sont pas nécessaires. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse industrie là, qui veut faire de l'argent avec nous en nous faisant croire qu'on a besoin de suppléments. Mais l'idéal, c'est toujours de manger des fruits et légumes, avoir une alimentation variée. Il y a aussi toutes sortes de théories du complot. Je vais y aller quand même rapidement. Mais le lait pasteurisé, la pasteurisation qui serait non seulement inutile, mais certains influenceurs vont dire que c'est dangereux de pasteuriser le lait. Évidemment, il n'y a pas aucune base scientifique là-dessus.
Non, Serge s'inquiète. Non, c'est du n'importe quoi.
Ça peut être notre peur, là. En fait, les théories du complot en lien avec l'alimentation, ça peut être influencé par des vrais problèmes qui ont existé, comme par exemple, il y a eu une fraude alimentaire en 2013 en Europe où on faisait passer de la viande de cheval pour de la viande de bœuf. Dans certains plats préparés. Il y a eu la crise de la vache folle dans les années 90. Alors, il y a souvent des inspirations dans la réalité, mais c'est pas une raison, dans le fond, pour continuer la désinformation. Et je vais juste passer tout de suite à la conclusion. Pour les deux nutritionnistes, faire circuler de l'information fiable sur l'alimentation, donc de l'information ancrée dans la science, ça demeure la meilleure façon de combattre la propagation de ces fausses croyances. Bernard Lavallée conclut en disant « Je pense qu'il y a encore des gens qui sont prêts à entendre cette information-là sur les réseaux sociaux. » Donc, j'espère que un petit peu avec cet article-là, on contribue à faire en sorte que ça continue. Là, l'information basée partir des faits.
Je pense que oui. Isabelle, je me demandais, parce que avant que vous quittiez les ondes pour partir en vacances, vous aviez un projet d'aller à Amos et goûter à la crème glacée.
Oui.
Et puis?
Exactement. Mais malheureusement, je suis revenue de Gatineau et j'avais vraiment beaucoup de misère avec parce que j'avais une fracture au pied. Et ça a été très difficile, donc je suis laissée faire mon voyage en Abitibi. Oui, ça a été...
Mais ce n'est que partie remise.
Voilà, je vous en donnerai des nouvelles éventuellement.
OK, merci. Est-ce que vous restez avec nous?
Oui, bien sûr.
Parfait.